I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler du lanceur d'alerte Twitter qui se trompe, d'Apple qui part vers les étoiles et des meilleurs moyens de cacher votre piscine au fisc. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 474. Nous sommes en août encore 2022, la rentrée s'approche, elle pointe le bout de son nez. Je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les nouveaux patriotes, les patriotes qui nous ont rejoints ces derniers temps. Pierrick Avelin, merci Pierrick, j'ai commandé un sac Peak Design, donc ton influence est forte. On a aussi Boreas 3, Fabien, Baptiste Nicolas, Yann Hick, Jean-François et Jason L. Gore. Merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon et merci aussi aux producteurs qu'on remercie chaque mois, Peter Rigal et Raph. Merci à toi et merci à vous et merci à vous tous. Et aujourd'hui, on a un beau programme, comme je vous le disais en intro. Et pour m'accompagner dans cet épisode, on a Jérôme Marin qui nous arrive tout droit d'un concours épique de... C'est ça que dans le sud, tu étais dans le Périgord et... Il y avait... Non, c'est pas ça, je confonds tout. Comment vas-tu, Jérôme ? Bonjour.
Très bien, merci Patrick.
Tu es en forme ? T'as passé de bonnes vacances ?
Très bien, rentrée de vacances, donc prends pour la rentrée, c'est parti.
Ça y est, tu relances la newsletter Café Tech, c'est
La semaine prochaine. La semaine prochaine, cafetech.fr pour s'inscrire.
Exactement. Mais j'ai vu d'ailleurs que tu utilisais aussi pour ta newsletter le système de Twitter, qu'on pouvait s'abonner par Twitter directement.
Ouais. Je teste ça, ça marche un peu, mais pas tant que ça, finalement.
Ouais. T'es content du fonctionnement ? Parce que je me demande, moi aussi, j'ai une newsletter, donc je me demande si est-ce qu'il faudrait pas la mettre sur Twitter ou pas, je sais pas, j'hésite.
Non, mais en fait, moi, je triche un peu, c'est que j'ai pas... Parce qu'en fait, c'est la newsletter sur revue qui est le système de Twitter. Mm-hmm. Et j'ai la newsletter sur revue, moi, j'en ai créé une, mais je l'utilise pas, en fait. C'est juste pour avoir des gens qui s'inscrivent par Twitter. Et après, je récupère les adresses email et je les mets sur ma newsletter.
D'accord,
parce que
c'est un moyen simplement
j'aime pas trop
de...
le système de...
Ouais, c'est ça, d'accord. C'est un moyen de les récupérer, leur adresse email. Donc, ils s'abonnent effectivement à la newsletter, mais pas par Twitter, mais par ton système de newsletter
voilà,
habituel. Je comprends.
Exactement, c'est une petite astuce.
Bah, merci beaucoup d'être avec moi dans cet épisode. On a de la matière. On a de la matière et je te propose qu'on se lance immédiatement avec les deux... Grosses infos à retenir, on va avoir Twitter, c'est le côté sérieux, et puis Apple, c'est le côté fun. C'est les deux sujets, tu sais, dont les gens ont marre. Donc, on va faire de notre mieux pour... Mais c'est intéressant, je vous promets, il y a des choses cool. Allez, on commence avec Twitter et un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, il y a les sirènes qui ont sonné en fin de semaine dernière, quand Peter Zatko, qui est un hacker bien connu, a été révélé comme étant un lanceur d'alerte sur le fonctionnement interne de Twitter, avec pas mal d'accusations qui sont plutôt sérieuses. Pour vous donner un tout petit peu de contexte, Zatko, donc comme je le disais, c'est un hacker connu qui s'appelle Mudge, c'est son pseudo. Il a été engagé par Twitter il y a 2 ans environ, quelque chose comme ça. Et
C'est
à peu près 2 ans. À la suite des différents hacks, vous vous souvenez des gros hacks de personnalités qui vous proposaient de vous envoyer des crypto-monnaies gratuites, genre Obama, Musk, enfin, il y avait plein de gens qui avaient été hackés. Je ne sais pas si Musk a été hacké, mais bon, il y a plusieurs personnalités, Tim Cook, etc. Et donc, Twitter a engagé Peter Zatko, qui est un hacker connu, qui a travaillé avec le gouvernement américain, etc., qui était White Hat et qui a travaillé pour le gouvernement. Il a travaillé chez Twitter pendant 1 an et demi, jusqu'en début d'année plus ou moins, et puis il a démissionné. Et là, il y a quelques mois, il a contacté les autorités américaines pour lancer une alerte sur les pratiques de Twitter, et il les accuse de plein de choses, et notamment... Alors, les deux... Allez, il y a trois accusations principales. La première, c'est que Twitter ne se préoccupe pas de la sécurité. Il a vraiment une grande préoccupation sur la sécurité des données et des utilisateurs dans le fonctionnement normal des serveurs, etc. Il y a des serveurs qui ne sont pas à jour, des logiciels qui sont, pas, qui sont pleins de trous de sécurité, donc ça, c'est un gros problème, bien sûr. Mais il y a aussi la question de l'accès. Il y a plein d'employés Twitter qui ont accès à, au code, simplement, de Twitter, à toutes les différentes... étages, à tous les étages du fonctionnement de Twitter, et il parle de plusieurs milliers d'ingénieurs qui auraient accès sans aucun log, sans aucune trace, n'importe qui peut changer quoi que ce soit, etc. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la question du spam, et on va y revenir tout à l'heure parce qu'elle est centrale dans le combat entre Elon Musk et Twitter. Il dit que le spam n'est pas du tout une préoccupation de Twitter, que les execs, que les responsables sont plutôt motivés financièrement à ignorer le spam parce que leurs objectifs sont plutôt vers la croissance du nombre d'utilisateurs. Donc, on va en parler ça tout à l'heure. Et bien sûr, vous vous souvenez que Elon Musk, l'une des choses qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de spam sur Twitter que ce que dit Twitter officiellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, enfin la raison principale pour laquelle il dit vouloir sortir du deal du rachat de Twitter. La troisième, c'est qu'il y a eu des décisions de Twitter d'intégrer des personnalités politiques, enfin, ou plutôt des gens désignés par des organismes politiques, notamment en Inde, à l'intérieur de la société de Twitter, ce qui était une condition pour qu'ils puissent continuer à opérer sans entrave dans le pays. Alors, on parle de l'Inde, il y a d'autres éléments aussi. Bref, c'est vraiment une bombe pour Twitter. Et évidemment, on pourrait se dire qu'il sait de quoi il parle, parce que d'une part, c'est son boulot, et d'autre part, il a travaillé pour Twitter pendant un an et demi à un très haut poste. Il disait aussi qu'il avait pas, il pouvait pas... avoir accès aux responsables. Il a réussi à parler genre 4 fois en un an et demi à Agrawal, qui est le CEO de Twitter, alors qu'il est censé être à un poste important lui quand même, etc. etc. À froid comme ça, Jérôme, quelles sont tes impressions sur ces révélations et peut-être l'analyse que tu peux en faire, juste en survolant un petit peu, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, déjà, je pense que ce n'est pas forcément une très, très grosse surprise. On sait que Twitter, tu l'as mentionné, a déjà eu pas mal de problèmes. On sait que Jack Dorsey, qui était CEO jusqu'à l'an passé, ce n'était pas forcément sa tasse de thé. Lui, il est plus côté vision future et le côté un peu opérationnel, sécurité, ce n'était pas forcément ses priorités. Ce qui fait plus mal, en fait, c'est déjà que ça sorte publiquement... auprès du gouvernement américain, donc, parce qu'en fait, il lance une alerte auprès du gouvernement américain, auprès des autorités américaines, dans un contexte où on a vu avec TikTok l'année dernière, notamment sur les données, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est des sujets sensibles. Donc, je pense que là, ça peut... parce qu'il y a le discours en disant, oui, la sécurité est importante, la lutte, bon, c'est d'autres sujets, mais la lutte contre la désinformation est importante, des choses comme ça. Et en fait, si quelqu'un à l'intérieur vient dire que c'est pas vrai... Ben déjà, ça décrédibilise totalement l'entreprise et totalement son discours. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a des lois qui ont été violées ? Est-ce qu'ils peuvent potentiellement être poursuivis, inquiétés par la justice américaine ? Donc ça, c'est un autre sujet. Et sans parler de Musk, on en parlera tout à l'heure, mais rien que sur le côté sur la sécurité, voilà, c'est vraiment, c'est jamais bon pour une entreprise. Il y a quelqu'un qui était le chef de la sécurité qui dit que c'est pas bien, quoi. Donc ça, rien que pour l'image de marque, pour potentiellement même des poursuites aussi judiciaires.
Ça, c'est clair. Et pour ça, il va y avoir des enquêtes qui sont en cours aux États-Unis et en Europe, d'ailleurs. Des enquêtes qui ont été ouvertes suite à ces déclarations. Et c'est difficile à estimer parce que sur la question sécurité, comment dire, j'ai pas de doute que lui est très compétent, mais... Quand on parle d'un expert de sécurité, j'ai toujours un petit peu l'impression... Bon, ce dont il parle, ça, c'est effectivement préoccupant. Quand il dit n'importe quel employé peut avoir accès à un accès important, pas n'importe quel, mais les ingénieurs, il y a beaucoup d'ingénieurs, il les compte par milliers, les ingénieurs qui ont accès au tableau de bord général, tout sachant de Twitter. Évidemment que ça, c'est inquiétant.
En rappelant qu'il y a un ancien employé Twitter qui vient d'être condamné pour avoir espionné pour le compte de l'Arabie Saoudite, en rappelant également qu'en Inde, voilà, Twitter a des gros problèmes avec le gouvernement indien. Et donc, si vraiment ils ont mis des gens du gouvernement indien et qui ont eux-mêmes un accès à des données un peu confidentielles ou un peu, voilà, c'est ces problèmes aussi qu'il faut poser.
Tout à fait, ouais. Et ça, alors oui, ça c'est difficile a priori à contester. Alors les employés anciens et actuels de Twitter semblent indiquer, certains en tout cas semblent indiquer que c'est un petit peu exagéré comme allégation, que j'ai un petit peu le sentiment que j'ai, moi, et encore une fois, il faudra voir les enquêtes, mais j'ai toujours ce petit point d'interrogation avec les spécialistes de la sécurité. C'est un petit peu des gens qui paniquent totalement quand tu n'as pas sur tous tes comptes que tu utilises la double authentification avec des mots de passe interminables et des machins, genre comment ce forum que tu utilisais en 2012, il y a encore des données accessibles, mais enfin, c'est la fin du monde, machin. Bon, j'exagère pour faire l'effet, mais c'est leur boulot, c'est leur obsession, et parfois, peut-être qu'ils ont tendance à vouloir... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La double authentification est hyper importante. Les mots de passe aujourd'hui, il faut qu'ils soient randomisés, qu'ils soient longs, etc. C'est hyper important, on est d'accord. Mais peut-être que dans le fonctionnement de l'entreprise, je peux imaginer qu'un hacker qui a un passif un petit peu de baroudeur, comme c'est le cas de Zatko, ait tendance à ne voir que sa spécialité et pas les contraintes qu'il peut y avoir dans d'autres domaines, dans d'autres parties de l'entreprise. Bon, ça, je reste relativement... J'exagère ou c'est quand même...
Moi, je pense que tu as un peu raison en disant que c'est vrai que si tu es spécialiste de la cybersécurité, tu vas avoir... Il faut faire ça comme ça. Parce que c'est ultra sécure, mais après, ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas vraiment comme ça, ça ne va pas être sécurisé non plus. Après, avec Twitter, il faut dire qu'il y a quand même des données très sensibles. Si le gouvernement chinois, par exemple, au hasard, mais peut accéder aux données des dissidents qui postent sur Twitter, ben, ça pose des vrais problèmes en termes... Twitch, par exemple, où il y a peut-être moins de... L'impact est moins important. Enfin, il y a moins de conséquences.
Ouais, c'est un type de données, ou en tout cas peut-être pas les données elles-mêmes, mais si, en partie. Et puis aussi, les manipulations qu'on peut faire peuvent être préoccupantes. On dit dans la chatroom, si les habilitations nécessaires sont validées et les accès sont tracés, je vois pas où est le problème. C'est ça qui est préoccupant, c'est que selon lui, bah, y a pas tellement de traçage des accès, il n'y a pas tellement de traçage des changements, donc c'est quand même préoccupant. On verra ce que donnent les enquêtes.
Mais il y a quelques années aussi, je crois que ça a changé, mais il y a quelques années... Quasiment tous les employés Twitter, avaient accès, pouvaient aller. Alors, je ne sais plus le nom exactement.
C'était le God Mode.
Voilà, exactement. Qu'on avait chez Uber aussi. Ils avaient accès à des données un peu personnelles ou sensibles, choses comme ça. Donc, il y a très clairement, déjà, dans la Silicon Valley, ce n'est pas un sujet qui a toujours été pris au sérieux dès le départ, parce que quand on est en mode croissance, des choses comme ça, on ne se préoccupe pas forcément de la sécurité des données, choses comme ça. Ça a changé, mais. Est-ce que les habilitations nécessaires sont validées ? C'est pas forcément le cas, on sait pas en fait.
Ou en tout cas, c'était pas le cas quand lui il est arrivé. C'était pas il y a si longtemps. Hein. Il est arrivé il y a 2 ans pour justement faire face à ce problème et nettoyer les trucs. Alors j'ai entendu à droite et à gauche des gens dire bah s'il était là il y a 2 ans et qu'il a pas nettoyé, c'est pas un peu de sa faute quand même. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an et demi ? Bon bah il a été viré et maintenant il dit non mais ça va pas du tout. Peut-être que il s'est heurté à la lourdeur de l'administration de Twitter, etc., etc. Ok. On verra ce que donnent les résultats des enquêtes. Et puis surtout, il a dit Twitter ne s'est pas tenu aux accords passés avec la FTC ou la FCC et ils ont menti à l'organisation. À voir. Moi, il y a une autre chose qui me frappe parce qu'on a suivi l'affaire Musk et le pseudo-rachat, puis maintenant tentative de sortir du deal passé avec Twitter par Musk. Et tout ça tourne autour de la quantité de spam qu'il y a sur la plateforme. Et ça, c'est un article de Mike Masnick de TechDirt, qui est comme toujours assez pointu dans ses explications, qui dit que ce que dit Zatko, en fait, dans ses accusations, est assez flou, voire erroné, et ce qu'il détaille contredit ce qu'il dit lui-même. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, la clé du combat entre Musk et Twitter, ou en tout cas ce que Musk utilise comme prétexte pour sortir du rachat, c'est qu'il y a sur Twitter plus de spam et plus de comptes de spam que ce que Twitter déclare aux autorités selon l'accord qu'ils ont et les obligations qu'ils ont. Et donc, Twitter déclare 5% et Musk dit qu'il y a plus de 5%. Et ce que dit Zatko, c'est le spam, tout le monde s'en fout, et oui, a priori, il y en a plus que 5%. Sauf que il y a un point que ni Zatko ni Musk ne semblent comprendre. Dans le cas de Musk, peut-être qu'il floute les choses et il comprend très bien et il dit le contraire. Mais c'est la différence entre les DAU et les MDAU. C'est le M de MDAU qui est important. Qu'est-ce que c'est que MDAU ? MDAU, c'est Monetizable Daily Active Users. Daily Active Users, c'est les utilisateurs quotidiens, donc les utilisateurs actifs quotidiens, qui est un chiffre très important pour n'importe quel opérateur de service ou de réseau social, le nombre de personnes qui utilisent le service tous les jours, en moyenne. Et le MDAU, c'est un chiffre qui est extrêmement important pour Twitter, qu'ils ont introduit il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est important pour l'aspect financier de la plateforme. C'est le nombre d'utilisateurs monétisable, c'est-à-dire ils essayent d'estimer le nombre de vraies personnes en fait qui sont monétisables, qui sont des gens qui vont avoir une action potentielle commerciale sur la plateforme et donc qui vont répondre aux besoins des annonceurs qui vont faire de la pub ou ce genre de choses. Et ces deux chiffres sont pas du tout les mêmes. Ce que dit Twitter, c'est que dans ces MDAU, qui sont le chiffre qu'ils utilisent et qu'ils rapportent aux autorités, ils estiment qu'il y a à peu près 5% de spam. C'est de là que vient ce chiffre de 5%. 5% de spam. Et ils disent également que, alors ils estiment, mais c'est très difficile à dire avec justesse, et qu'ils se plantent peut-être un petit peu, et ils le disent clairement, c'est dans les déclarations, donc ils sont très clairs là-dessus. Et ils estiment à peu près à 5%, mais ils savent qu'ils se trompent peut-être un petit peu. Ce que prétend Musk, ou en tout cas ce que dit Musk, c'est que sur la plateforme, il y a plus de 5% de spam, et que donc Twitter ment. Mais Twitter, dans ses rapports, ne parle pas de la plateforme dans son ensemble. Ils savent qu'il y a sur la plateforme plus que 5% de spam, et j'irais même jusqu'à dire, a priori, c'est pour cette raison qu'ils ont sorti ce nouveau chiffre sur lequel ils basent leurs opérations comptables et commerciales, qui est de MDAU. Donc le MDAU, c'est les utilisateurs de la plateforme qui sont des vrais humains, qui ne sont pas. Alors, il y a d'autres choses. Hein. Il y a par exemple des bots qui vont, j'en sais rien moi, tweeter le temps qu'il fait à tel endroit, qui vont retweeter des trucs. Pas forcément des bots néfastes, mais juste des comptes Twitter qui ne sont pas des vrais utilisateurs. Donc ça aussi, ça ne rentre pas dans les MDAU. Mais Twitter, ce qu'ils utilisent, c'est les MDAU. Et dans son rapport, Zatko dit Twitter a plus de... Twitter rapporte 5% de spam dans le MDAU, alors qu'en fait, ils ont plus de spam que ça sur la plateforme. Et cette différence entre plateforme dans son ensemble et MDAU est extrêmement importante. Et quand Musk dit qu'il y a plus de 5% de spam sur la plateforme, qui encore une fois est la base sur laquelle il se repose pour dire bah, « du coup, Twitter a menti et je ne veux pas être contraint à acheter la société parce qu'ils ont menti », ce chiffre de spam sur la plateforme n'a aucune importance. Twitter n'en parle jamais. Ils ne mettent pas ça en avant à la SEC. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de 5% de spam dans les MDAU. C'est en gros leur marge d'erreur sur les chiffres qu'ils utilisent, pas sur la plateforme. Et du coup, il y a dans le rapport donc, de Zatko des moments où il dit « Elon Musk a raison parce qu'il y a plus de spam que ça sur la plateforme, et donc Twitter a menti parce qu'il n'en parle pas, il ne parle pas des plus de 5%. » C'est un point essentiel dont personne n'a parlé dans les rapports habituels des médias, et que seul Masnik a vraiment relevé, et effectivement, on va voir, il y a beaucoup de justesse là-dedans. À côté de ça, puisqu'on parle de Musk, il y a aussi un petit peu de, d'interrogation sur le timing du truc, sur le fait que Zatko a sans doute pourrait gagner beaucoup d'argent avec une prime pour ses révélations. À côté de ça, il a sans doute des actions Twitter, donc il n'est pas super content de faire baisser le cours de l'action, etc. C'est un petit peu complexe, mais le timing avec le procès qui arrive en octobre pour Musk... Bon, c'est difficile de ne pas se poser la question. Je ne suis pas en train de dire que Zatko a monté ça de toutes pièces et que tout ça. Mais, en gros, je ne sais pas quoi penser. Parce que ça, ce point-là des MDAU, ça montre qu'il ne sait pas, il ne comprend pas la clé du problème là, avec, entre Musk et Twitter. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ouais, bon, déjà, sur ce sujet, sur la question, est-ce que c'est un bon timing ? Les révélations sont aujourd'hui, on ne sait pas exactement quand il a contacté le gouvernement américain pour avoir le statut de lanceur d'alerte. Donc, c'est peut-être. Ah, donc, ça, c'est peut-être pas au niveau du timing, ça colle peut-être pas avec, avec Musk. La question des MDAU, la question des spams, tu l'as dit, c'est la question centrale de l'affaire. Moi, je pense que Musk cherche une excuse, en fait. Et depuis le début, on l'a vu, il a eu un peu un remords de se dire je vais dépenser 44 milliards pour acheter Twitter. Parce que c'était compliqué, c'est une opération qui est difficile à financer, il doit vendre des actions Tesla, il doit faire... il y a pas mal de choses qui font que c'était il avait intérêt peut-être à sortir de ce deal. Du coup, il a cherché une excuse, en tout cas c'est mon interprétation personnelle, et il est allé sur le spam avec, tu l'as dit, en disant il y a plus de spam, et tout ce qu'il a dit en fait quand il disait oui, chacun va prendre ses 1000 premiers followers, va voir s'il est actif. Encore une fois, comme tu le dis, c'est pas ça que Twitter mesure. Après, le 5% de Twitter, moi, je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. En tout cas, ce qu'il faut bien souligner, c'est que Twitter, quand il donne ce chiffre à la SEC, donc aux gendarmes boursiers américains, s'ils mentent volontairement, c'est un crime. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en prison. Les dirigeants de Twitter peuvent aller en prison pour avoir menti à la SEC et donc aux investisseurs. Donc ça, c'est quand même, il faut bien le dire que après, ils peuvent, c'est possible potentiellement de dire oui, leur système pour calculer le nombre de spams n'est pas bon, mais si on part du principe qu'ils mentent délibérément, c'est passible de peine de prison. Donc voilà, ça il faut le dire. Moi je ne sais pas s'il y a 5%. Après, voilà, personne ne le sait, Twitter va le dire, il y a 5%, 4%, 7%, même eux ils disent qu'ils ne savent pas forcément, c'est une estimation. Mmh. Ce qu'il faut voir, c'est que quand ils vont aller en justice, donc devant la justice du Delaware, Musk, il doit donc déjà il doit démontrer deux choses. Il doit démontrer premièrement qu'il y a plus que 5% de spam sur les MDAU. Ça va être compliqué à démontrer. La deuxième chose, même s'il démontre ça, il faut démontrer que le fait qu'il y ait plus que 5% de spam, la différence, elle est suffisamment importante pour que ça ait un impact important sur les profits futurs. Donc ça, c'est une autre paire de manches à démontrer. Et aujourd'hui, tous les experts un peu judiciaires du système judiciaire américain disent que Musk, il a très peu de chances de s'en sortir, en fait. Ouais. Que ça va être très difficile, un, de prouver qu'il y a plus de spam que réellement, et deux, que prouver que ça a un impact suffisamment fort pour annuler la transaction. Donc, alors, il y a ce rapport un peu qui tombe un peu de manière providentielle, et hier soir, les avocats de Musk ont cité à comparaître Zatko, donc qui devrait, normalement, si le juge accepte, témoigner au procès en octobre. Alors voilà, donc avoir un autre aspect qui est important, c'est de dire voilà, peut-être que Musk va se servir de ce rapport pour changer un peu sa défense.
C'est ce qui est en train de se dessiner. Hein. Ils ont, comme tu le dis, les avocats ont envoyé un courrier à Zatko pour dire bonjour, salut, comment ça va ? Et il semblerait, d'après les échos qu'on a, je ne sais même pas d'où ils viennent, mais qu'ils sont en train de changer de stratégie, effectivement, qu'ils ne se focalisent plus sur le spam. Et il y a certainement d'autres choses dans la plainte de Zatko qui pourraient lui servir. Ça, c'est à peu près certain. Ouais.
Après, voilà, après avoir, est-ce qu'ils peuvent changer en disant finalement le spam, ce n'est pas très grave et on va passer sur la sécurité, alors qu'à la base, c'était le spam. Donc moi, voilà, après, ça va être des détails, ça va être des batailles judiciaires. Et je pense qu'en tout cas, Musk, il s'est mis dans... un peu dans la cagade, hein, on va dire que voilà, il est dans une position, voilà, soit il dépense 44 milliards, soit il va potentiellement aller devant la justice. Et en plus, on sait que Musk a déjà eu des soucis avec la SEC, voilà, et donc quand c'est une entreprise cotée, voilà, c'est toujours compliqué. Il y a eu l'histoire, je sais pas si tu as vu cet été, où il a tweeté qu'il allait racheter Manchester United, le club de foot, qui est aussi une entreprise cotée. Et en fait, il a parfois Il tweet plus vite qu'il devrait. Quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Moi, je pense que ça va se terminer. Alors, on pourrait pas encore reparler de Musk pendant des heures, mais je pense que ça va se terminer avec bon, bah allez, tu lui files 5 milliards et c'est terminé. Musk file 5 milliards à Twitter et c'est terminé. Et puis, bon, on aura des débuts de réponse en octobre. Mais clairement, là, c'était un rebondissement. Et puis, on s'est focalisé sur les spams parce que c'est ce qu'on peut vraiment évaluer. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le rapport qui pourra servir dans le procès. Peut-être. Est-ce que ça va servir à Musk? Mais en tout cas, c'est important. Moi, encore une fois, je me répète, mais sur ce genre de truc, généralement, je suis assez vite convaincu. Et c'est pas que je porte Twitter particulièrement dans mon cœur. Et ils ont un passif assez inquiétant ou assez, disons, ils ont pas donné un super bon exemple par le passé. Là, je me dis, ok, je dis pas encore une fois qu'il a tort, mais je dis attendons de voir parce que s'il y a beaucoup de, si ça avait été que le timing, j'aurais dit bon bah ça peut arriver effectivement, il a commencé les démarches avant, etc. Mais cette histoire de MDAU en 10 ans avec Zatko qui cite, ça me paraît très peu professionnel ça par exemple, le fait de dire
oui, après,
encore une fois
après,
dans son truc,
c'est aussi...
il cite Musk, il dit oui Musk a raison de dire ceci, enfin tu c'est pas très sérieux quoi, mais bon.
Après, oui. Après, ça dépend. Est-ce que lui aussi, il fait la différence enfin, entre MDAU, MDAU, MAU
C'est clair.
Bien sûr, c'est important, mais après, je veux pas le dire qu'il est de mauvaise foi. Enfin, voilà,
je suis d'accord.
Dire ça.
Et puis, c'est quelqu'un de respectable.
Ça peut être une confusion, ça peut être...
Ouais. Je suis d'accord. Je suis pas, moi, depuis mon petit podcast, à l'aise pour dire que Peter Zatko est en train de mentir. Il a beaucoup plus de il a beaucoup plus de sérieux et de pédigré que moi dans ce domaine. Donc, bon, on va attendre de voir les résultats. Bref, Apple, tiens. Bon, on a parlé de trucs sérieux. Ça te va qu'on parle de trucs un petit peu plus cool et tranquille, parlant un petit peu d'Apple. Allez, on y va.
Très sérieux aussi, hein.
Très quoi, pardon?
Très sérieux aussi, Apple.
Très sérieux aussi, bien sûr. Mais là, on va parler d'Apple et de l'espace. L'espace, en fait, c'est un thème qui semble être extrêmement présent. Vous allez voir, c'est pas que pour Apple, il y a aussi les téléphones en général, et on va reparler un petit peu d'Elon Musk, mais le docteur Jekyll de Musk, pas le côté Mr. Hyde. Oui, je sais que chez Legendroid s'intéresse beaucoup à Apple aussi, mais du coup, il y a l'annonce officielle de la conférence de présentation de l'iPhone 14 qui a été faite, ça aura lieu le 7 septembre, et il y a une sorte de constellation sur l'image de l'invitation avec le texte « Far out », qui veut dire « très loin », qui est aussi genre pour les gens qui, pour les cinquantenaires, genre ça veut dire « très cool ». Mais genre très loin, et il y a plusieurs indices qui laissent penser que ça a à voir avec l'espace. Alors, deux choses possibles, on ne va pas repartir sur ce qu'ils vont annoncer, je suis sûr qu'on en reparlera d'ici là, genre les iPhones, les Apple Watch, etc. Mais d'abord, deux choses liées à l'espace qui sont possibles pour ces nouveaux iPhones, l'astrophotographie. Et là, les gens d'Android sont contents parce qu'ils ont ça sur les Nexus depuis... Pas les Nexus, les... Merde, comment ils s'appellent ? Oui, les
Pixel.
Nexus, je ne sais plus.
Pixel, maintenant.
Pardon ?
C'est les Pixels.
Les Pixels, voilà. je me suis arrêté il y a 5 ans. Les Pixels font de l'astrophotographie, c'est-à-dire des modes spéciaux de l'appareil photo pour prendre en photo le ciel et surtout le ciel étoilé, évidemment. Et c'est un truc qui marche super bien sur les Pixels, qui donne des résultats impressionnants. Et a priori, ça pourrait être un nouveau mode pour les téléphones d'Apple qui soit mis en avant. En rapport avec les étoiles, on a l'air de voir la constellation Apple sur l'invitation. Donc ça pourrait être un truc cool. Mais il y a aussi un autre truc qui pourrait être en rapport avec ça. C'est que on avait une rumeur il y a un ou deux ans sur la possibilité d'avoir une connexion satellite sur les téléphones Apple qui serait utilisée pour les appels d'urgence. Si on est dans un endroit où on n'a pas de connectivité 3G, 4G, 5G, eh ben on pourrait utiliser une connexion satellite pour envoyer un SMS, peut-être même passer un appel, ce genre de choses, mais d'urgence si on est perdu au milieu de la montagne, de la forêt et qu'il y a une situation problématique. Et il y a un fournisseur de ce type de service qui a expliqué avoir des grosses rentrées d'argent cette année sans pouvoir dire de quel client il s'agissait. Tous les yeux sont tournés vers Apple, bien sûr. Et surtout, très intéressant, T-Mobile, l'opérateur américain, a fait une sorte de mini-conférence avec Elon Musk pour dire que la prochaine génération, la deuxième génération de satellites Starlink de SpaceX, vont permettre l'utilisation d'une connexion, alors faible débit, très lente, etc., mais au téléphone, sur le spectre, c'est 2,5 GHz, je crois, l'un des spectres qu'ils utilisent, pour avoir des connexions normales sans matériel nouveau différent dans le téléphone. C'est-à-dire que n'importe quel téléphone pourra utiliser cette connexion-là avec les nouveaux satellites Starlink qui vont être lancés très bientôt. C'est une connexion lente. Hein. Sur la zone en question, sur chaque zone, il y aura 2 à 4 mégabits par seconde de données partagées sur toute la zone. Donc, ce qu'ils disent, c'est pour envoyer un SMS, peut-être passer un coup de fil, peut-être qu'un SMS va devoir attendre 10, 20, 30 minutes pour être envoyé, mais ça servira donc quand on n'a pas du tout de connexion et sans ajout de matériel supplémentaire. Du coup, est-ce que ça marchera potentiellement sur les iPhones, peut-être les nouveaux, peut-être que ça, c'est un autre système. Mais entre l'astrophotographie et la connexion satellitaire d'urgence plus ou moins urgente, hein, là, ça pourrait être pour une utilisation un petit peu plus classique aussi, potentiellement. Est-ce que c'est ça, le far-out de l'invitation d'Apple, Jérôme, tu vois quoi arriver? Toi, tu connais la Silicon Valley, tu connais la zone des innovations. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus possible, crédible?
Les deux
d'un coup, ouais, pour faire...
Non, je pense qu'effectivement, l'invitation, quand tu regardes, tu as l'impression de regarder la galaxie Apple en étoile. Donc ça, ça voudrait dire voilà, prendre des photos, l'astrophotographie, je pense que ça fait sens. Après, je pense que le côté utilisation des satellites pour les appels d'urgence, il y a suffisamment d'indices et d'articles de presse sur ce sujet, de fuites qui laissent à penser que ça va arriver. Donc, est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Mais je pense plus que là, c'est vrai que sur le côté de l'invitation, c'est plus, à mon avis, l'astrophotographie qui est plus un peu grand public que le côté qui va utiliser... Enfin, voilà, c'est très peu de personnes qui vont utiliser le satellite, surtout qu'il faudra certainement payer en plus. J'imagine que T-Mobile, ça ne sera pas gratuit, il faudra avoir un abonnement en plus.
Alors, pas vraiment. En fait, dans le cas de T-Mobile, c'est sur les abonnements, pas sur les moins chers, mais inclus dans les abonnements medium et high, moyen et cher. Donc, c'est sans supplément, mais pas sur les moins chers, par contre.
Mais du coup, ça restera quand même assez un truc de niche, parce que voilà, la situation d'urgence, ce n'est pas tous les jours qu'on est en situation d'urgence et qu'on a besoin de passer... un coup de fil, quoi.
Ouais, surtout en Europe, il faut avouer, aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde, c'est peut-être un petit peu plus le cas. Mais c'est vrai qu'en Europe, on est rarement dans une zone qui n'est pas couverte par au moins, je sais pas, la 2G, la 3G, quoi.
Donc voilà, je pense que l'invitation, en tout cas, va plus sur le côté astrophotographie, quoi.
C'est possible, c'est possible. Et du coup, bon, peut-être, je ne sais pas, pour les gens qui sont sur... Mais en fait, je pensais, tu sais, si tu es sur ton yacht au milieu de la mer, enfin, le yacht, il va avoir un téléphone satellite.
Et tu es déjà équipé,
ça.
Quoi.
C'est ça, les gens très riches. Ou alors, tu vois, si tu es sur ton yacht et que tu as un problème, tu envoies tes gens sur terre, sur la côte, pour aller passer un coup de fil et te rapporter les informations, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est le genre de truc cool, mais qui n'a peut-être pas une utilisation très concrète. Je pense que les gens qui sont dans ces situations emmènent avec eux un téléphone satellite. Si tu vas faire une expédition, j'en sais rien, en Amazonie, ce genre de choses, par sécurité, tu as un téléphone satellite. Il y a des cas où ça servira, mais c'est plus pour le... Tu sais, moi, je me dis... C'est pour être sûr que si jamais tu es dans cette situation, c'est comme une assurance, là encore. Si tu es dans cette situation, tu peux envoyer un SMS et c'est pour le cas où, une fois dans ta vie, tu en auras peut-être un peu besoin, mais au moins tu es tranquille. Donc tu te dis, attends, je vais prendre l'iPhone 14 Pro et tous les pros à venir pour tous les téléphones en payant 200 € de plus à Apple, pour le cas où, on ne sait jamais. C'est ce genre de fonctionnalité.
Non, mais de toute façon, on voit, de toute façon, maintenant, il n'y a plus tellement d'innovation aussi, donc il faut rajouter un petit truc à la marge ou quelque chose d'un peu niche qui fait un peu du marketing. Donc ça, je pense que le côté, je vois bien la pub de la famille qui est perdue perdu dans le Grand Canyon ou un truc comme ça et qui c'est va ça. Sortir son iPhone et ça marche, un truc comme ça. Mais après, ouais. Voilà, l'utilité, je ne sais pas si ça va bien marcher. Quoi. Enfin, je ne sais pas si ça va être très utile.
Très utile, c'est ça, ouais, exactement. Bon, après, il y a certainement des gens qui en auraient l'utilité, hein, comme on disait, mais... C'est des cas relativement rares. Du coup, on en profite. iPadOS 16 ne sera pas disponible en même temps qu'iOS 16. Il sera disponible un mois plus tard. Ils l'ont confirmé. On avait des rumeurs. Ils arriveront direct avec 16.1. Donc, ces histoires de Stage Manager, l'interface fenêtrée de l'iPad, semblent leur donner du fil à retordre. Donc, ils se sont laissés un mois de plus. Et puis quelques autres petites news Apple. Le casque de réalité virtuelle semblerait être le Reality One et le Reality Pro avec Reality OS. Celui-là, on imagine qu'il va arriver en début d'année prochaine. Un chiffre, on parlait de sécurité. Apple nous dit que parmi les utilisateurs d'iCloud, alors c'est précis, hein, c'est pas tous les utilisateurs d'iPhone, mais les utilisateurs d'iCloud, c'est une grosse partie des utilisateurs d'iPhone. 95% d'entre eux ont activé l'authentification double facteur. Évidemment, sur ces appareils, on a depuis longtemps les Face ID, Touch ID, etc. Et 95% qui ont activé l'authentification double facteur, c'est hyper impressionnant. C'est important pour l'utilisation de Passkey, qui est leur système compatible FIDO, qui ne nécessitera plus de mot de passe pour se connecter. Mais 95%, j'ai été surpris, comme souvent chez Apple, ils ont un taux d'adoption qui est important. Et puis, la dernière information que je voulais mentionner, c'est le fait qu'il y a du côté du gouvernement américain, visiblement des velléités de lancer un procès contre Apple. On parle du département de la justice, hein, qui voudrait lancer un procès contre Apple pour des problèmes d'abus de position dominante. Et ça toucherait, comme ce dont on entend parler depuis un moment, l'App Store et la question de la commission sur l'App Store de 30%, du monopole sur les logiciels de l'appareil à Apple, dans l'écosystème Apple. Bon, on ne va pas refaire tout le débat là-dessus. Ils n'ont pas encore décidé s'ils vont lancer un procès ou pas, mais ça pourrait être énorme si ça se concrétise.
Après, ils sont aussi poursuivis déjà en Europe, il faut bien le signaler. Donc, il y a quand même l'étau qui se resserre sur Apple et aux États-Unis. En fait, juste pour préciser, le département de la justice, ça fait plusieurs années qu'il enquête sur Apple. En fait, il y avait quatre, donc ils enquêtaient sur Apple, Amazon, Google et Facebook. Google, Facebook, ils ont déjà attaqué. Amazon aussi, donc Apple c'est un peu le dernier à attaquer qui n'a pas été pris par la patrouille en fait, donc c'est possible que ça se fasse.
Moi je t'avoue que quand on a commencé à avoir les questions de monopole de l'App Store sur les plateformes Apple, enfin on parle des plateformes mobiles hein, évidemment, je me disais bon, c'est un peu trop gros, ça va pas, ils vont pas être forcés de changer. Mais vu comme ça tire de tous les côtés, et comme tu disais, il y a le Digital Services Act qui, en Europe, force aussi ce genre de choses. Bon, en même temps, Apple, ils ont déjà prévu le coup. Ils réduisent, ils découplent le paiement, le système de paiement et la commission. Et leur commission, elle est de combien ? 27% et le système de paiement, c'est 3%. Ouais. Donc, même s'ils doivent autoriser d'autres systèmes de paiement, ils garderont les 27% au lieu de
3%. Il faut bien voir que la question, ce n'est pas sur la commission, c'est sur l'exclusivité de l'App Store, en fait. Si demain, l'App Store il est plus exclusif et que tu peux télécharger tes applications avec une autre boutique, il n'y a plus de commission pour Apple.
Ça, c'est vrai, oui. Tu as raison. Ce n'est pas que la question du moyen de paiement qui est une des questions importantes et qui est en train de bouger, mais il y a aussi, oui, le fait d'avoir d'autres App Store qui pourraient permettre de complètement contourner
la logique voudrait, le sens de l'histoire voudrait que ça saute, en fait.
Tout à fait, tu as raison. À voir si ça se produira. Moi, comme je vous dis, il y a 2 ans, j'aurais pensé, mais jamais de la vie. Bah, aujourd'hui, ça semble possible. Un petit détour par Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? Patreon, c'est un système hyper simple, hyper cool, hyper facile, hyper pratique, hyper sympa, et oui, sympa, de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous allez sur Patreon, vous choisissez une somme que vous attribuez à chaque épisode, genre 1 euro, vous dites, oh, allez, j'ai passé une heure cool, on m'a appris des trucs, on m'a fait marrer, ça vaut 1 euro, ça vaut 2 euros, ça vaut 3 euros. Vous créez votre compte en 2 secondes, et puis à la fin du mois, vous êtes facturé du montant correspondant. C'est hyper simple, hyper rapide, et en plus, vous avez des bonus. Quel genre de bonus, me direz-vous ? Mais je vais vous répondre tout de suite. Vous avez des éditos, des émissions avec des after-shows, vous avez des contenus spéciaux, vous avez plein de les time-codes, pas de pub, surtout pas de pub dans les émissions. C'est cool pour vous, c'est cool surtout pour moi parce que ça me permet de financer mon activité et c'est grâce à vous que je finance mon activité. Si ça vous intéresse, vous allez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Vous créez un compte en 2 secondes, même depuis votre iPhone ou votre Android. Ça marche des 2 plateformes, multiplateformes. Nous, on est multiplateformes, messieurs et mesdames. Et donc, vous pouvez faire ça même depuis votre téléphone en 2 secondes. Vous faites ça maintenant ou alors quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Kling, Patrick. Et je vous encourage à au moins considérer la chose. Kling, Patrick, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes qui le font déjà. Enfin, je dis qu'ils le font déjà, en fait... ils n'ont pas cette petite partie au milieu parce que bah, vous avez le flux privé qui est objectivement 38% meilleur que celui-ci. Donc si vous voulez 38% de mieux, patreon.com/rdvtech. Et d'ailleurs, pour les patriotes, on a dans un instant Dums qui nous rejoint pour nous parler de son expérience avec la tablette Remarkable 2, qui n'est pas une tablette classique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Remarkable, c'est une tablette qui essaye de se rapprocher autant que possible du papier. C'est une tablette e-ink, donc encre électronique avec un stylet, tout ça. Et il va nous en parler dans cette partie réservée aux patriotes merveilleux que j'aime d'amour.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On continue avec le reste des news, et des news traitées un petit peu plus rapidement, encore que c'est important.
Je peux faire une petite breaking news à la CNN.
Ah mais bien sûr, vas-y, breaking news, qu'est-ce qui se passe ?
Breaking news, ça vient de tomber. Elon Musk vient donc d'écrire aux avocats de Twitter pour dire donc qu'il termine le deal sur par rapport aux raisons de sécurité. Voilà. Donc il se sert.
C'est le truc que je voyais sur Bloomberg, effectivement. Il termine le deal pour des raisons de sécurité. Donc effectivement. Il switch du spam à la sécurité. Tu vois, quand je te disais que le timing est quand même un peu bizarre. Est-ce que c'est acceptable, tu crois ? Enfin, on n'est pas des avocats, mais...
Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que là, donc, c'est... Est-ce que la justice va accepter ça, en fait ? C'est ça, c'est plus le côté de le juge, maintenant, qui est en charge du dossier, qui va devoir décider s'il accepte cette deuxième raison.
Ouais, c'est vraiment...
Ça semble un peu bizarre.
Il a annulé le deal à cause du spam. Il a dit, bah non, il y a trop de spam, machin. Et tout. Ah non, finalement, attendez, il y a machin qui a dit truc, donc finalement, c'est pour des questions. J'imagine que les avocats doivent avoir estimé que cette raison-là avait plus de chances de réussir.
Certainement.
Je pense. On nous dit dans la chatroom, sécurité et spam sont liés. Non, dans ce cas-là, ce n'est pas de ça dont on parle. Ça peut avoir des liens, bien sûr, mais là, ce n'est pas de ça dont on parle. Elon Musk a voulu arrêter son achat de Twitter pour le confort d'utilisation de la plateforme avec le spam qui était un problème pour les utilisateurs et pour sa capacité à monétiser à l'avenir. Là, c'est complètement autre chose. Bon, écoute, on verra. Merci pour la breaking news. J'avais vu traîner ça, mais c'est tombé là il y a quoi, quelques... Il y a 2 minutes. Ouais, il y a 20 minutes exactement. C'était en train d'apparaître sur la page Bloomberg que j'étais en train de regarder en bandeau. Attention, il change d'avis encore une fois. Écoute, puisqu'on parle de gens qui sont très riches, clairement, quand on a une piscine, On est très riche. Non, bon, c'est pas exactement ça, mais il y a une initiative du gouvernement français qui est en train d'être étendue, qui était en test sur 9 départements et qui est en train d'être étendue et qui utilise la photographie satellite de Google Maps et un système développé par Capgemini pour identifier les piscines dans les résidences en France. Et ces piscines, les croiser avec les piscines non déclarées aux autorités, puisque quand on a une piscine, c'est un changement de l'urbanisation et il faut payer une taxe spécifique. Et il y a plein de gens qui font construire une piscine et qui ne payent pas leur taxe. Eh bien, il y a un système d'intelligence artificielle qui est basé sur les cartes Google qui identifie les piscines, qui en a identifié beaucoup, et qui va permettre, a priori, à l'État de rentrer 10 millions d'euros de taxes, enfin, qui a rentré sur les 9 départements 10 millions d'euros, qui va rentrer 10 millions d'euros sur les piscines non déclarées, qui va être étendu à tout le territoire. Flicage ou justice, Jérôme ? T'as que deux choix possibles, hein. Flicage ou justice, il n'y a pas d'entre les deux.
Je ne sais pas, là c'est un sujet... Alors après, je ne sais pas. Franchement, c'est...
Alors, je vais répondre pour toi. Pour moi, c'est justice. Pour moi, c'est justice. Alors, il y a plein de petits astérisques à mettre, mais pour moi, c'est justice. Enfin, c'est une piscine. Tu es censé déclarer ta piscine et payer une taxe de 200 euros par an sur ta piscine. Bah, si tu ne la déclares pas, je ne sais pas comment on peut... Tu vois, le truc, c'est que le système en lui-même, je comprends qu'il inquiète. Parce que on utilise un truc qui est presque comme l'œil de Dieu qui voit, bah, c'est les satellites, machin, qui analyse par intelligence artificielle. Alors, il y a des faux positifs, il y a des faux négatifs peut-être. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment cacher votre piscine, visiblement, quand il y a des arbres au-dessus, enfin, si vous avez un gros arbre à côté qui couvre un petit peu, ça fait planter le système. Donc voilà, vous savez comment. Faites planter un gros arbre en même temps que vous creusez votre piscine. Mais oui, le problème, c'est que les faux positifs, c'est un petit peu inquiétant. Et puis, bon, ça, on peut ensuite vérifier. Tu vois bien, tu vas chez la personne, j'en sais rien. C'est possible de voir qu'il n'y a pas une piscine. Le truc, c'est qu'ils vont ensuite étendre à d'autres types d'extensions de propriété, peut-être pour étudier d'autres choses. Moi, ça me... Je comprends le fait que ça soit inquiétant. Et pour la piscine spécifiquement, je dirais, bah ouais, c'est justice. Il faudrait voir jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et puis, c'est justice. Je pense que la piscine, je ne vais pas pleurer beaucoup les gens qui doivent maintenant payer leur taxe sur la piscine. Mais sur le principe... je crois qu'il y a une... Si on extrapole énormément, il faut pouvoir être un petit peu flirter avec les limites de la loi sur certains trucs parfois. C'est un petit peu comme les enfants, tu sais. Il y a des règles qu'ils doivent, dont on sait qu'ils vont les enfreindre. Et voilà, il faut que tu aies un petit peu de liberté là-dedans. Et puis ensuite, il y a des règles sérieuses que, bon, là, ça déconne plus, mais... Si tu n'enfreins pas les petites règles, je me demande si tu ne te mets pas du coup à vouloir enfreindre les grosses, en plus de cette question d'omniscience du gouvernement qui est peut-être un petit peu inquiétante aussi. Mais...
Et surtout, il faut dire qu'avec maintenant tous les satellites, qui, y a pas mal de galaxies, de constellations, pardon, par exemple planètes, qui photographient la Terre tous les jours. Donc, il y a moyen de faire vraiment quasiment au quotidien, de savoir voir ce qui se passe, quoi.
Ouais, bah c'est ça. Jusqu'où est-ce que on peut, parce que là c'est le tout début, mais jusqu'où est-ce qu'on peut, bon, on peut extrapoler énormément. Ce que je dirais, c'est que là pour les piscines, bon, ça va, je vais pas pleurer non plus. Nvidia est en passe d'annoncer ses nouvelles cartes graphiques, les RTX 4000, la nouvelle série, sauf que manque de peau entre la baisse des cryptos et la chute des dépenses tech, eh ben ils se mettent à avoir des tonnes de la série précédente, la série 3000, en stock. Et donc, ils vont ajuster les tarifs auprès des revendeurs. Vous entendez les guillemets. En gros, ça va être peut-être le moment d'acheter une RTX 3000 parce qu'ils veulent les écouler avant de sortir la nouvelle série, quoi. Donc, ça, c'est on va dire une bonne chose, peut-être pas pour Nvidia, mais pour eux non plus, je ne vais pas pleurer. Puis il y a AMD qui a annoncé ses nouveaux processeurs, ses Ryzen série 7000. Alors, ils vont commencer avec les gros processeurs, les Ryzen 9. En gros, je vais vous épargner tous les détails techniques, mais en gros, les nouveaux Ryzen vont, par différents moyens, avoir des augmentations de puissance de 20 à 30%, ce qui est quand même important. C'est quand même des processeurs traditionnels. Hein. C'est du x86, c'est du RISC, du CISC, pardon. Donc, on ne se dirige pas vers les processeurs ARM, mais ils ont leurs chiplets qui sont connectés sur la... sur le même processeur, le truc vers lequel se dirige Intel maintenant. Bon, ça commence à bouger et c'est pour moi, je crois, peut-être un signe supplémentaire de du ralentissement de la pénurie, du début de la fin de la pénurie peut-être. À noter que les dépenses pour la tech dans le monde sont estimées, ont une croissance estimée de 3% en 2022, ce qui est évidemment beaucoup moins qu'en 2021 ou en 2020 même, mais on reste sur de la croissance, c'est-à-dire qu'on a quand même de la croissance de dépenses tech. Donc bon, c'est l'une des choses dont on a besoin toujours, donc la croissance de des dépenses continue, mais... c'est pas une récession, on va dire, dans la dépense tech.
Bah, je pense que ça va dépendre aussi des secteurs, en fait. Parce que là, c'est tech tout compris, quoi. Donc, 3%, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être forcément baissés. Voilà, à voir.
C'est possible aussi, oui. On inclut le cloud aussi là-dedans, c'est pour tout.
Les entreprises, c'est aussi des dépenses que... Enfin, c'est facile. C'est là où on peut couper aussi dans des dépenses... des achats d'hardware ou du software aussi, on peut couper assez facilement.
Et il y a eu tellement de renouvellements en 2020-2021, que je pense aussi, en ce moment, c'est pas le moment de se dire on va continuer à racheter des ordinateurs pour les troupes, quoi. Je pense que là, ça va être peut-être un moment de pause. Mark Zuckerberg devrait présenter le nouveau casque de réalité virtuelle de Oculus en octobre. C'est un casque qui est intéressant. C'est leur projet Cambria dont ils avaient parlé déjà l'année dernière. Mais le projet Cambria, c'est un casque qui devrait pouvoir traquer les mouvements des yeux et même du visage de manière à retranscrire à votre avatar en réalité virtuelle les expressions. Donc, il va pouvoir suivre des yeux. Vous pourrez voir le mouvement des yeux et les expressions faciales, ce qui est évidemment, pour la communication entre êtres humains, un élément hyper important et qui va renforcer le projet de... le sentiment de présence. Je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose un moment charnière dans la réalité virtuelle et dans les interactions virtuelles, si vraiment ça fonctionne, et a priori ça devrait fonctionner. Bon, à noter que le casque, c'est un casque haut de gamme qui devrait coûter quand même 800 ou 900 euros, peut-être plus. Donc, c'est pas le casque pour tout le monde, mais c'est le début de cette évolution de la technologie. Il devrait le présenter en octobre. Entre parenthèses, on a le casque de Sony qui devrait arriver aussi début 2023, le nouveau casque de réalité virtuelle, qui est lui pas aussi poussé technologiquement, qui se connecte au PlayStation 5, le PlayStation VR 2, mais c'est un possible renouveau de la réalité virtuelle. Moi, je crois que si la réalité virtuelle renaît vraiment, enfin, on va dire rebondit de son ralentissement d'il y a quelques années, ça va être dans ces 6 prochains mois, je crois. Et entre parenthèses, Sony a augmenté le prix de sa PlayStation de 50 euros, sa PlayStation 5. Ça, c'est vraiment l'opportunisme de folie. C'est marrant parce qu'il les vendait par paquet, par palette entière, et ils n'arrivaient pas à en produire assez. Maintenant, ils vont réussir à en produire assez. Je pense qu'ils voulaient augmenter le prix depuis longtemps parce que offre et demande, là, ils peuvent, grâce à l'excuse de l'inflation.
Surtout les taux de change, en fait. Je pense plus que l'inflation, c'est les taux de change plus que... Parce que Sony, il faut rappeler que Sony Computer Entertainment est une entreprise américaine, donc ils vendent en dollars. Et le dollar augmente beaucoup. Hein. Donc aujourd'hui, ouais. 500 euros, ça valait 500 dollars. Ça vaut 500 dollars. Il y a 6 mois, ça valait 600 dollars. Donc, il y a aussi l'échange en fait à prendre en compte.
Ça, oui, ça joue aussi. À la base, Sony c'est une société japonaise, mais c'est vrai que essentiellement ils payent leurs équipes de développement essentiellement en dollars aux États-Unis, etc. Donc c'est vrai que ça joue certainement. Moi, je crois que ça joue, mais face à la Xbox, s'ils avaient assez de machines pour en vendre, pour satisfaire la demande, je pense qu'ils ne le feraient pas. Tu vois, là, c'est une sorte de... Parce qu'il y a aussi la concurrence avec la Xbox, même avec Nintendo. Moi, je pense qu'ils sont dans une situation où, de toute façon, ils vendent pas assez de machines, donc autant faire monter un petit peu le prix. Mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe.
Non, mais ils sont dans une situation où, de toute façon, ce qu'ils mettent sur le marché part en 5 minutes, donc ils peuvent...
Ouais. La VR, ça te dit, ça t'intéresse ou tu crois...
Ouais, moi, je suis pas un grand fan de VR déjà parce que ça me fait mal à la tête déjà à la base. Mais moi, on parle d'Oculus, mais je me rappelle quand Oculus est arrivé, il y a quoi, en 2016, on était racheté par Facebook, je crois.
Ouais, mais comment il s'appelait le prototype qu'ils avaient mis en vente, c'était 2012, je crois, ou 2013.
Mais ils ont été rachetés en 2016, il me semble. Enfin bon.
Oui, par Facebook. Oui.
Ouais, mais ce que moi, j'allais à la GDC à San Francisco où je voyais Luke Palmer, donc le patron d'Oculus. Qui nous disait oui, la VR c'est pour maintenant, et tout le monde disait oui, la VR c'est pour maintenant, et puis on attend toujours, presque 5 ans, 6 ans après. Voilà. Mais a priori, ce que dit Facebook, c'est que les ventes l'an passé du Meta Quest, je crois que ça s'appelle Meta Quest 2 maintenant, il me semble, elles ont augmenté beaucoup, et finalement, ils ont même augmenté les prix, je crois, ils ont augmenté le prix de 100$ il n'y a pas très longtemps.
50, ouais, il n'y a pas très longtemps pour les mêmes raisons que Sony.
Mais après ça reste quand même de la niche quoi.
C'est intéressant avec la réalité virtuelle effectivement. C'est un truc qui a été relancé par Palmer Luckey avec Oculus en 2012-2013 quand il a fait son Kickstarter qui a connu un énorme succès. Elle a connu une certaine popularité au milieu des années 2010 et après je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a disparu. Mais ce n'est pas le cas, elle n'a pas disparu. Ce n'est pas comme les télés 3D donc qu'on ne voit plus ou ce genre de truc. Mmh. Elle est passée en mode genre en maintenance. Et depuis 5 ans, les choses sont calmes, mais elle n'a pas du tout disparu. Au contraire, il y a une croissance modeste, mais qui continue, et beaucoup de travail derrière les établis et derrière la scène. Et à un moment, il est très possible que ça revienne avec... en tout cas... Il y a beaucoup de sociétés très sérieuses qui y croient, que ce soit Meta, Sony ou même Apple, avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ils y travaillent très sérieusement et ça va arriver là dans les 6 prochains mois. C'est pour ça que je dis peut-être que ça va vraiment revenir. Et quand je dis revenir, ce n'est pas revenir de nulle part, mais revenir de cet état, je ne vais pas dire végétatif, mais enfin, où il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Je crois que tout le monde attend que les nouvelles générations de casques et les nouvelles plateformes arrivent. Et comme tu le dis, le Oculus Quest 2 se vend très très bien. Donc, il ne faut pas croire que, parce que ce n'est pas aussi populaire que, je sais pas, les iPhones et qu'on n'en parle pas autant que Twitter, ils ont complètement disparu. Ce n'est pas le cas. Bref. Un truc qui n'a pas non plus complètement disparu, c'est les podcasts. Et il semblerait que Twitter soit en train d'intégrer les podcasts à sa plateforme. Alors, comment ça va marcher? C'est dans le nouvel onglet audio. Ils ont un nouvel onglet audio qui va apparaître dans lequel ils auront leurs spaces, vous savez, les espaces de discussion audio et des podcasts intégrés à la plateforme. Évidemment, j'en parle parce que moi, je fais du podcast, mais je ne sais pas si peut-être que pour des podcasts courts, ça pourrait être intéressant à intégrer à Twitter. Ça va donner plus d'exposition au podcast. Mais a priori, pourquoi pas? Twitter, on lance un podcast, on le met en tâche de fond et puis il continue à lire le podcast. Ça pourrait devenir un lecteur de podcast au même titre qu'autre chose. Pourquoi pas? Mais je suis circonspect, on va dire.
Tu vas ça ne coûte ton pas grand-chose de le mettre. Hein.
Ouais, c'est un. Il cherche des relais de croissance, peut-être. Tu penses que tu vas écouter des podcasts sur Twitter?
Non, mais après... Non, mais c'est vrai que non, mais
non, mais après non, c'est très bon.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile en fait de quand on a une habitude, on écoute ses podcasts sur une plateforme, c'est difficile de changer à part et sur une écoute de podcast, il faut rajouter de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter en fait pour convaincre les gens d'écouter quoi?
Moi, je pense que c'est peut-être des gens qui ont plus ou moins entendu parler des podcasts, qui en écoutent de temps en temps. Et puis qui n'en écoutent pas beaucoup, tu vois, qui vont peut-être être amenés à en écouter, ou peut-être des gens qui n'en ont jamais écouté, qui en ont entendu.
Non, mais après, il y a peut-être un moyen, tu vois, par exemple, toi, sur ton Twitter, tu peux dire, voilà, écoutez le dernier épisode du Rendez-vous Tech, et ils appuient, ça joue directement, il n'y a pas besoin d'aller sur Spotify ou sur Apple. Ouais. Donc ça peut être une utilisation, mais après, est-ce que ça va être. ça va être très grand public, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ouais. Dans le chat, on dit que Facebook l'avait déjà fait. Et c'est vrai que Facebook a arrêté, je crois, les podcasts.
Ouais.
Ou en tout cas, ils n'en parlent plus trop.
J'ai repoussé l'ajout de mes podcasts à Facebook pendant des mois. Et quand je me suis dit, bon, je vais peut-être le faire à un moment, ils ont dit, ah bah, on arrête les podcasts. Ok, très bien. J'ai bien fait. Ouais, mais c'est pas tout à fait comparable parce que je crois que Facebook est une plateforme beaucoup plus complexe où on fait beaucoup de choses différentes. Twitter, ils veulent pousser l'audio et c'est plus simple. Twitter, t'as ton fil, t'as tes notifications. Et puis peut-être qu'à côté de ça, il peut y avoir des trucs audio. Leur Spaces, qui est une sorte de, on va dire, podcast live ou en tout cas du streaming d'audio, moi, je trouve que le concept est intéressant. Alors, bon, j'en ai jamais fait, donc ça montre bien que ça ne doit pas être si intéressant que ça. Mais le concept vraiment m'intrigue. J'ai juste jamais trouvé comment le caser dans mon travail. Je sais pas. Bon, à voir. Netflix devrait lancer son abonnement moins cher avec pub. On pense vers la fin de l'année dans quelques marchés. Ça coûterait entre 7 et 9 dollars et il y aurait environ 4 minutes de pub par heure et il n'y aurait pas tous les contenus qui sont sur les abonnements plus chers. Et pendant ce temps, les streamers, Apple TV, Amazon Prime, Disney+, etc., ils vont dépenser, selon les estimations, 23 milliards de dollars en 2023 en création de contenus originaux. C'est 10% de plus qu'en 2022 et c'est deux fois plus qu'en 2019. Ça sera sans doute enfin le peak TV, c'est-à-dire la plus grosse dépense de télévision scriptée, donc pas la réalité télé, etc. Après ça, ça devrait enfin commencer à redescendre. Mais ça fait quelques années que certains disent que ça va être la peak TV. 23 milliards, c'est pas rien. C'est le plus qu'ils aient jamais fait. Donc oui, la concurrence continue à être sévère. Tu penses que ça peut leur apporter quelque chose, cet abonnement moins cher avec pub à Netflix ? Ou là encore...
Ah, clairement, parce que...
Ouais.
Alors déjà, il faut bien souligner que Netflix a toujours été contre. Toujours, toujours, toujours. Ils ont changé d'avis parce que ça commence à ralentir, que la croissance, elle n'est plus là et que... des gens commencent à se désabonner parce que c'est très cher. Aujourd'hui, Netflix, aux États-Unis, il me semble qu'on est à 15 ou à 16 dollars par mois. Donc là, on est quasiment à deux fois moins cher. Et puis tout le monde fait ça. Disney commence à le faire, ou Hulu aux États-Unis le fait. Il y a un marché, je pense, sur aujourd'hui. Voilà, si tu dis pour le seul prix de Netflix, tu vas avoir Netflix et Disney Plus avec de la pub, bah pourquoi pas le faire.
Ouais. Voilà. Au lieu d'avoir juste après, Netflix, t'as les deux, bon, il y a un peu de pub. Voilà. Mais...
Et 4 minutes par heure, si c'est vraiment que 4 minutes par heure, c'est pas non plus énorme. Quand on sait aux États-Unis, il y a 20 minutes par heure à la télévision, je parle. Il y a 20 minutes de pub, donc 4 minutes, c'est pas finalement si catastrophique que ça. Ça va pas forcément nuire l'expérience, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la pub, on est tous habitués à la regarder. Il y a un public qui va accepter de payer entre 7 et 9 dollars. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est des gens qui étaient à 15 dollars, qui vont se désabonner et passer à 7 dollars ? Dans ce cas-là, c'est un peu contre-productif. Ou alors, si c'est vraiment un nouveau public ?
C'est une bonne question, oui. Pardon, vas-y.
Sachant que, par exemple, sur Hulu, par exemple, qui est donc aux États-Unis, qui n'est pas en France, mais qui, pareil, qui a un abonnement en pub et un abonnement sans pub, des analystes estiment que Hulu gagne plus d'argent avec l'abonnement avec les pubs, en fait. Parce que la pub, aux États-Unis, on vend quand même la pub vidéo plus chère qu'en Europe, fait plus que compenser la baisse de l'abonnement, en fait.
C'est... Oui, a priori, je sais pas. Moi, je me dis que les gens qui sont pas abonnés à Netflix aujourd'hui considéreront certaines... Parce que si t'es abonné et que t'es habitué à pas avoir de pub, c'est un peu dur de revenir à un système où t'as de la pub. Mais si t'es pas abonné... peut-être que c'est un moyen de se... Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas abonnés à Netflix aux États-Unis ? Je ne sais pas, certainement. Mais je pense que la plupart des gens qui ne sont pas abonnés ont un compte partagé, peut-être partagé de manière pas très propre. Mais du coup, peut-être que ça ira dans ce sens-là aussi, qu'ils vont être plus stricts avec le partage de comptes.
En fait, je pense aussi qu'aujourd'hui, si tu es étudiant, par exemple, tu utilises le compte de tes parents, c'est interdit, en fait, par Netflix, ouais, parce qu'il faut habiter dans la même maison. Demain, si Netflix vraiment met en place les mesures qu'ils ont annoncées pour limiter le partage de compte, eh bien, peut-être que tu diras, je ne veux pas payer mes 15 dollars parce que c'est trop cher, mais 7 dollars, je peux le faire. Et puis la pub, si je mets un adblock, peut-être que l'adblock, il marchera de toute façon.
Les gens ont de la ressource. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte à quel point... aujourd'hui, Disney+, c'est quoi, 7, 8, 9 dollars. Netflix, c'est 15, 16, 17. Enfin, c'est vraiment très, très cher, Netflix. Donc, cet autre abonnement peut avoir du sens. Microsoft est bien plus sympa. Il serait en train de travailler à un abonnement au Game Pass. Alors, le Game Pass, vous savez, c'est cet abonnement qui vous donne accès à un catalogue énorme de jeux vidéo sur Xbox et PC. Enfin, et ou PC. Et il serait en train de travailler à une version de l'abonnement qui serait plus chère que l'abonnement de base, mais disponible en partage familial. Là où c'est différent, c'est que c'est du partage familial et amical. Et je crois que c'est la première fois qu'un abonnement majeur autorise officiellement, de manière confirmée, le partage avec des amis, donc des gens qui ne sont pas dans la même maison que toi. C'est intéressant au niveau de la stratégie de service parce que vraiment dire bah vous pouvez vous partager cet abonnement avec vos amis, ça veut dire qu'il devrait coûter autour de 20-22 euros contre 10 euros pour l'abonnement de base. Donc, si tu as deux ou trois amis avec qui le partager, eh ben, c'est Friends and Family, donc c'est la famille et les amis. Ça peut être hyper intéressant. On parlait d'étudiants, on se met à quatre sur le truc, bah ça revient moins cher. Moi, je pense que c'est un moyen pour Microsoft de bouffer des parts de marché, quoi, à ce niveau-là.
Mais là, c'est toujours la même question. C'est est-ce que tu vampirises pas non plus ce qu'on disait tout à l'heure sur Netflix, ton offre de base, quoi. Si tu as quatre personnes qui payent 10 $ et qui se mettent ensemble. Donc, ah bah ça va éteindre le marché, c'est sûr.
C'est sûr, mais moi je pense que ils ont fait leur calcul. Bon, c'est pas encore confirmé. Hein. Ils ont fait leur calcul et ils se disent ça nous permet de faire d'étendre le parce qu'ils sont dans une politique de conquête de parts de marché Microsoft avec ce Game Pass et du coup ça peut créer un effet d'aubaine. Où plein de gens qui n'étaient pas sur le Game Pass vont se dire bon bah attends on se met à 4-5 et puis on le prend et après ils sont dans l'écosystème et ils sont embarqués de la même manière que les gens qui ont profité de l'astuce pour avoir le Game Pass à 1 euro enfin 5 euros par mois pendant 3 ans comme moi et beaucoup de gens qui écoutent le rendez-vous jeu maintenant bon bah ils sont un petit peu dans le truc et... d'ailleurs
Je disais, je pense aussi que peut-être le là où ils vont gagner, ça va être plus bien pour eux, c'est que en fait aujourd'hui, si tu as une famille, peut-être que tu as un seul abonnement en Game Pass pour ta famille en fait, et que demain, si tu as trois enfants, ben, tu dis, ben, je vais prendre l'abonnement famille, donc je vais payer plus cher, au lieu de payer 10, je vais payer 20. Ah, donc c'est peut-être là où je pense que c'est peut-être là où il y a la marge la plus importante pour gagner, pour pas forcément doper le nombre d'abonnés, mais doper le prix en fait moyen payé par les abonnés.
Ouais, c'est vrai. Et puis, on nous dit dans la chatroom, bonjour, la politique de Netflix ne va pas relancer le piratage. C'est toujours la question, oui, c'est sûr. Enfin, relancer le piratage va très bien encore. Hein. Je peux vous assurer que les sites que vous connaissiez il y a quelques années sont toujours présents. Donc, mais oui, c'est toujours la forme de... disons qu'il existe toujours et donc il y a il est beaucoup moins présent, évidemment, parce que les offres sont plus abordables. Mais donc, il y a cet équilibre à trouver, c'est certain.
Juste une petite anecdote sur ça, si tu me permets. Netflix, tous les trois mois, publie une lettre aux actionnaires. Et dans cette lettre, ils disent voilà, qui sont nos concurrents, qui sont un peu, quels sont les dangers contre Netflix. Et le piratage, au début, il n'est jamais apparu. Hein, jamais. Parce qu'ils disaient voilà, on n'est pas cher. Et finalement, à 10 $ par mois, le côté pratique fait que les gens préfèrent payer 10 $ plutôt que pirater. Et le jour où ils ont commencé à parler de piratage, et je te jure, c'est véridique, c'est quand ils sont lancés en France. La lettre après, ils ont parlé du piratage.
Voilà. Ah, pas mal. Très drôle. Ça ne me surprend pas. Hein. Tu sais que je sais pas. Tu vois, on parlait de règles qu'on peut enfreindre. Le piratage, je pense, bon, ça fait peut-être un petit peu partie de celle-là. J'ai un ami, ça date un petit peu, hein, mais j'ai un ami japonais qui était très surpris de voir la quantité de cannabis qu'on consommait en France ouvertement. Alors au Japon, ils sont très, 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 très stricts là-dessus, mais la France est un pays aussi qui, on va dire, enfreint la loi à ce niveau, je crois, un petit peu plus qu'ailleurs. Mais oui, le piratage, ça ne me surprend pas que ça soit une préoccupation en France. Facebook fait un truc bien, enfin Meta. En suivant les recommandations de leur comité de surveillance, leur Oversight Board, ils ont décidé de créer un service, une sorte de service après-vente pour la modération sur leur plateforme. C'est intéressant, c'est vraiment un customer service qui devrait vous permettre, quand un contenu est modéré par les équipes de Facebook, de parler à une personne physique, une vraie personne, et pas juste des emails automatisés. Et c'était l'une des recommandations de leur comité de surveillance. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire ça. C'est exactement le truc que tous ces réseaux sociaux disaient ne serait pas économiquement viable. Donc, je suis très surpris d'apprendre que Facebook soit en train de tenter de faire la chose. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'ils disent qui n'est pas économiquement viable, c'est de faire passer en revue tous les contenus modérés par une personne humaine, peut-être, ou enfin de tout adresser par une personne humaine. Là, c'est pour le, entre guillemets, service après-vente. Mais c'est, si ça se fait, non seulement c'est une super nouvelle, mais j'aimerais bien que ça soit le cas pour tous les réseaux sociaux. Peut-être que des réseaux comme Twitter ont moins d'argent que Facebook pour faire ça, mais plutôt une bonne nouvelle. J'en lis deux, trois, et puis je te laisse la parole. Le Salvador serait en train d'avoir de sérieux problèmes financiers, surtout pour trouver des gens pour financer le pays. Vous vous souvenez que le Salvador est le pays qui a rendu le Bitcoin monnaie officielle, une des deux monnaies officielles du pays. On était tous inquiets parce que, bon, d'une part, le pays va pas très bien, mais d'autre part, le Bitcoin est quand même une valeur qui fluctue énormément. Et ben là, les conséquences de cette décision, clairement. Alors, heureusement, le pays n'avait pas basé toute son économie sur le Bitcoin, mais ça a l'air d'avoir des conséquences préoccupantes là-bas. Vous pouvez s'en douter. Et puis, est-ce que tu as vu cette performance incroyable d'Eminem et Snoop Dogg en Bored Ape, du Bored Ape Yacht Club, leur NFT, vous savez, leur singe NFT, qui ont chanté au... les Video Music Awards de MTV. Ils ont fait une performance virtuelle en tant que leur singe NFT. Voilà, c'est un peu ça. Je te laisse commenter le sujet de ton choix entre le Facebook Oversight Board et son service après-vente, El Salvador, et Snoop Dogg et Eminem au MTV Video Music Awards.
Bon, comme les cryptos, ce n'est pas forcément mon truc, je vais parler de Facebook, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que parce qu'on se plaint souvent de la modération et que finalement une politique de modération, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit comprise et qu'elle soit aussi discutable. En fait, on peut pas la remettre en cause et qu'on peut pas la contester, ça fait un peu dictature, ça fait un peu c'est comme ça et pas avant. Et puis en plus, surtout que la modération de Facebook, on le sait, c'est des algorithmes, beaucoup d'algorithmes. Donc des algorithmes, c'est-à-dire des robots qui décident de supprimer des choses ou pas. Il y a aussi des humains, il y a beaucoup d'humains aussi. Donc il y a des erreurs potentielles, donc je trouve que c'est une bonne chose. Après, à voir comment ça s'applique, bien sûr, parce que, comme tu l'as dit, ils ne vont pas pouvoir tout revérifier. Après, si le comité de surveillance de Facebook peut permettre de faire avancer les choses, ça va dans le bon sens. C'est bien, c'est plutôt pas mal.
Voyons comment ça sera implémenté, mais clairement, c'est le genre de choses que je ne pensais pas arriver et qui est plutôt positive. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais vous dire deux mots sur les sujets, quelques autres sujets que j'ai mis dans la newsletter. Des trucs intéressants. Il y a une expérience de Google qui a donné des résultats positifs sur la prévention de la désinformation. Évidemment, la désinformation, c'est un problème sociétal, systémique depuis une dizaine d'années. Et Google a trouvé un truc qui fonctionne, c'est des publicités de pré-bunk sur la désinformation. Alors, l'article est très bien fait, il vous explique de quoi il s'agit. Il sera dans la newsletter, notrepatrick.com pour s'abonner. Mais en gros, ce que c'est qu'ils mettent sur YouTube des publicités qui ne débunkent pas un sujet spécifique, mais qui expliquent la manière dont on essaye de manipuler les gens pour faire passer de la désinformation. Par exemple, l'appel à l'émotion. Il y a des vidéos qui sont des pubs, hein, c'est-à-dire que sur YouTube, si vous ne cliquez pas sur « passer la pub », bah, elle va s'afficher, mais si vous cliquez, elle se passe. Et ça va expliquer, par exemple, bah voilà, quand on fait appel à du langage émotionnel, c'est sans doute qu'on veut faire passer une information de tel ou tel type, etc. etc. Mais il ne donne aucun exemple. Et visiblement, ça a un effet concret sur l'accroche de la désinformation ensuite. Donc, ils vont augmenter ces efforts-là. L'article est vraiment intéressant. Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. Et il y a aussi un article de Taylor Lorenz sur le Washington Post sur les NIM cells. Est-ce que tu sais ce que c'est que les NIM cells ?
Non, mais je vois écrit dans le truc, donc je sais un peu.
C'est les niches Internet micro-celebrities. Les NIM cells, c'est des célébrités qui ont quelques milliers de followers. Alors, ce n'est pas des micro-influenceurs, c'est des célébrités parce qu'ils ne monétisent pas du tout leur truc. C'est des gens qui s'en foutent un peu de créer du contenu ou ce genre de choses. Ils ont juste des gens qui les adorent, mais ils sont des personnes vraiment aléatoires qui se sont retrouvées pour une raison ou une autre à être un petit peu connues dans certains cercles, que ce soit sur Reddit ou sur Instagram ou Dieu sait où. Et ils veulent pas monétiser leur truc, mais ils sont contents d'avoir ce public. C'est hyper intéressant parce que ça montre l'évolution de la célébrité, vraiment. Et les 15 minutes de gloire dont parlait Steve Warhol, que je ne dise pas de bêtises, les 15 minutes de gloire et la manière dont ça se concrétise dans notre monde aujourd'hui, c'est plus des sujets, vous savez, des articles de fond. Ce n'est pas des trucs qui vont vous apprendre une information hyper importante, mais qui vous permettent de prendre la température du net et de comprendre ce qui se construit là-dessus. Donc, moi, c'est des articles que j'aime beaucoup et que je partage parfois dans la newsletter. Puis, il y a aussi un autre truc, c'est un site formidable qui s'appelle Old Maps Online, qui est un site qui vous permet de trouver des cartes anciennes de à peu près n'importe où et qui répertorie les anciennes cartes qui ont plusieurs siècles parfois. Et c'est un autre truc que je vous partage dans la newsletter. Voilà pour moi. Eh bien, écoute, on est arrivé au bout. On a réussi, Jérôme. Bravo, félicitations.
Parfait.
Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet? Et puis, bah, je parlais de newsletter, il y a la tienne, comme on l'évoquait au début de l'émission aussi. Qu'est-ce qu'on y trouve? Où elle est? Qu'est-ce que tu y fais?
Alors, on peut me retrouver sur... Donc, l'adresse est cafetech.fr. C'est une newsletter qui est quotidienne, qui décrypte un peu l'actu tech mondiale. Voilà. Côté plus business. Moi, je suis un journaliste business à la base. Et puis, vous pourrez me retrouver sur Twitter si vous voulez. Mon pseudo, c'est Jérôme Marin SF, comme San Francisco, parce que j'ai passé plusieurs années à San Francisco. Et voilà. Voilà, mais c'est exactement. Voilà.
Magnifique. Cafetech.fr et Jérôme Marin. Le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick. Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. NotePatrick.com pour tous les liens, mais aussi. Bah dans les notes de cette émission, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur votre téléphone maintenant et avoir tous les liens vers le Discord. On s'amuse beaucoup sur le Discord, c'est le lieu le plus cool et sympa d'Internet. Si vous en avez marre de déprimer sur Twitter, vous pouvez aller sur notre Discord, il y a des gens sympas qui parlent de trucs cool. Vous pouvez aller aussi sur Twitch, tous les mardis midi et les jeudis midi, on fait les émissions en live, le rendez-vous tech le mardi et le rendez-vous jeu le jeudi. Et puis, quoi d'autre? Bah, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission si vous appréciez ce qu'on fait, si on vous fait passer un bon moment, si on vous apprend des choses. patreon.com/rdvtech pour une somme relativement modique que vous choisissez. Vous pouvez avoir plein de contenus bonus, les émissions sans pub et soutenir l'émission surtout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous!